5, 4, 3, 2, unité.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en force.
L'Auberge espagnole de ce mardi 6 novembre 2013 nous emmènera tout d'abord dans la saison 5 de l'Agora des Savoirs avec Régis Penalva, coordinateur de la manifestation pour la ville, et Michel Miaille qui partage avec Étienne Klein la présidence amicale du conseil scientifique, une saison composée sous forme d'ABCDR. Ce week-end sur la scène du Jam, à partir de mercredi soir, vous attend le Mansa Jam Festival, un festival de 4 soir qui vous emmènera sur toutes les rives de la musique afro avec Tao Ravao et Vincent Bûcher à ce mercredi à 21h15. Juju Rock des Britanniques le jeudi 7 novembre. Vendredi, ce sera Coco Dembélé qui sera notre invité avec un petit live. Et puis samedi 9, le Groove Killer Project de Sheikh Tidiane Seck. Tout ça, ce sera au Jam. Et puis ces jours-ci, le 7 et le 8 novembre au théâtre Jean Villard, on pourra voir un spectacle entre spectacle et conférence qui s'appelle Un point c'est tout, et ce sera un entretien avec Claire Barden, plasticienne et designer graphique et scénographe, qui partage avec Adrien Mondeau ce spectacle assez étonnant. Pour l'heure, c'est avec l'Agora des Savoirs saison 5 que l'on part.
L'Agora des Savoirs, des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
L'interrogation de l'être humain.
La création d'univers.
Des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
Le mercredi à 20h30, salle Rabelais à Montpellier et en direct sur Divergence FM.
Que voulez-vous, madame? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Avec quoi est-ce que nous pouvons nous connaître? Sinon avec notre propre connaissance.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Mercredi 6 novembre 2013, A comme arbre, par Francis Allais. Après 50 ans de découverte, les arbres ne sont plus comme les voyaient nos grands-parents, d'où le titre de cette leçon inaugurale, Un arbre tout neuf. Une réussite biologique à l'échelle mondiale, un effectif de 70 000 espèces augmentant chaque année par la découverte d'arbres nouveaux dans les tropiques. Les forêts tropicales contiennent les formes ancestrales et arborescentes des herbes d'Europe, pervenches, myosotis et pâquerettes. Les êtres vivants les plus grands et ceux qui vivent le plus longtemps sont et ont toujours été des arbres, les records actuels étant de 130 mètres et de 43 000 ans. Arbres et forêts existent depuis le Dévonien, 350 millions d'années, alors que l'homme n'a que 150 000 ans. Francis Allais est botaniste, biologiste et dendrologue. Ancien professeur de botanique à l'Université de Montpellier, il est spécialiste de l'écologie des forêts tropicales humides, de l'architecture des arbres et ardent défenseur des forêts primaires. Il vous attend le 6 novembre 2013 au Centre Rabelais pour cette leçon inaugurale de la 5e saison de l'Agora des Savoirs. Dans cette auberge espagnole, nous sommes en compagnie de Régis Penalva et Michel Miaille. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
C'était le médecin et chercheur en biologie Jean-Claude Amaison qui, par une leçon inaugurale, ouvrait la saison 4 de l'Agora des Savoirs le mardi 6 novembre 2012. Après plus de 20 rendez-vous, la saison 4 se refermait le 28 mai avec le Gaia Global Circus de Bruno Latour. C'est donc le moment, vu que la rentrée c'est demain, de faire un bilan de cette saison 4, mais aussi et surtout de parcourir l'ABCDR de la saison 5 de l'Agora des Savoirs qui se décline sous la forme d'un alphabet dont le A comme arbre par Francis Allais aura lieu demain, mercredi 6 novembre, au Centre Rabelais de Montpellier, de 20h30 à 22h, et bien sûr en direct sur les ondes de Divergence FM. Régis Penalva est coordinateur de la manifestation pour la ville. Michel Miaille partage avec Étienne Klein la présidence amicale du Conseil scientifique de l'Agora des Savoirs, composé d'une vingtaine d'universitaires qui y participent bénévolement. Cinquième anniversaire avec un changement de police de caractère qu'on peut tout de suite voir. On y reviendra peut-être, mais aussi avec une proposition un petit peu différente, puisque la première saison proposait de revenir sur les origines, la deuxième saison sur les valeurs, la troisième saison sur les incertitudes. La dernière saison, c'était usage des savoirs et des sciences, et là, on a choisi la forme de l'abécédaire. Alors, c'est pas que vous étiez à court d'idées, mais pourquoi pas finalement faire ce choix, prendre cette contrainte ?
Non, l'idée, c'était quand même de renouveler un peu la formule, bien que ce sera toujours le mercredi soir du mois de novembre au mois de mai, et de marquer cette cinquième année comme, en quelque sorte, la fin d'une période qui nous propulsera après sur, j'espère, d'autres années à venir, et de rompre là avec, non pas la routine, mais l'habitude qui avait été prise d'un thème annuel décliné en trois trimestres avec une espèce de retour régulier du thème. Là, on a trouvé que c'était intéressant de faire une espèce de bric-à-brac avec l'alphabet, des différents mots que cite la première lettre ou la deuxième ou la troisième de l'alphabet et d'inviter un spécialiste. Donc tout le monde en aura pour son savoir et ses désirs et je pense que ça pourra être quelque chose d'assez intéressant et nouveau.
Est-ce que ça a amené quelque part une dimension plus hétéroclite dans la programmation ?
En tout cas, ça a amené une forme plus ludique, y compris dans la réflexion que le Conseil scientifique a apportée pour la programmation de cette manifestation. Je pense que Michel ne me démentira pas. Nous nous sommes bien amusés à proposer pour chaque lettre plusieurs mots. Alors évidemment, chacun prêchait pour sa paroisse. Les astrophysiciens auraient bien aimé astéroïde à la lettre A, mais finalement, c'est les biologistes qui l'ont emporté avec l'arbre. Et puis, effectivement, ça permet de continuer à faire ce que nous faisons désormais depuis 5 ans, c'est-à-dire couvrir la totalité du champ des savoirs et des disciplines universitaires, puisque sciences de la matière, sciences du vivant, sciences humaines, sciences sociales et philosophie sont toujours très bien représentées.
Peut-être que les auditeurs et puis les spectateurs qui viendront le mercredi soir verront que dans ce programme, il y a à la fois des sujets qui paraissent très sérieux, comme on a fait depuis 4 ans, hein, Big Bang par exemple, ou dinosaures, ou écrire, mais qu'il y a des sujets qui surprennent par leur intitulé, parce qu'ils font partie de notre univers quotidien.
Je pense à par exemple.
Twitter, hein, oui. Mais également...
À la porte.
À la porte, kitsch. Donc, un certain nombre de thèmes qui, a priori, n'apparaissent pas comme des thèmes savants, mais dont on va découvrir, je pense à la porte, par exemple, qui sont des thèmes extrêmement savants.
Donc, les astrophysiciens ont quand même été plutôt bien servis, puisqu'ils sont à la lettre B, comme Big Bang. Il y en a quand même pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a eu de différent, justement, dans la préparation de cette saison par rapport au niveau du conseil scientifique ? Est-ce que les gens, finalement, ont trouvé ça plus facile ?
Alors, disons que le conseil scientifique, depuis le début, a toujours travaillé dans une joie partagée. Hein. Vraiment, si vous assistiez à une de nos réunions, vous verrez que même dans le couloir, on nous entend rire. Donc, c'est le gai savoir. Hein. C'est pas du tout une réunion triste d'universitaires penchés sur des papiers. Dans les séances précédentes et dans les années précédentes, on a aussi blagué et on s'est beaucoup amusé, mais on était liés par un thème. Là, ça a été un peu un brainstorming, c'est-à-dire que qui peut dire mieux sur A, sur C, sur D, sur L. Donc ça a été une espèce de concours, j'allais dire, à trouver des thèmes surprenants à partir de ces lettres de l'alphabet, mais qui étaient en même temps liés à notre exigence de sérieux, puisque nous nous ne prenons comme conférenciers que des universitaires diplômés et exerçants, donc des chercheurs ou des professeurs. Nous ne prenons que des gens qui ont déjà publié et qui sont connus. Donc ça restreint quand même le choix à, disons, non pas un happy few de quelques distingués collègues, mais quand même à une frange bien déterminée dans l'univers universitaire. Et donc là, on n'a pas eu de peine à trouver, malgré cette concurrence entre les disciplines et qui fera mieux que le suivant, on n'a pas eu peine à trouver quand même la grosse vingtaine d'intervenants.
Alors des intervenants qui amènent avec eux leur savoir, leur érudition et puis aussi parfois leur personnalité lors de la conférence. Est-ce qu'il y a aussi la capacité oratoire de chaque intervenant qui est prise en considération quand on la connaît à l'avance ?
Évidemment, tout est pris en compte. D'abord, effectivement, donc la première contrainte, c'est le fait d'être universitaire. La seconde, c'est qu'effectivement, nous vérifions qu'ils ont déjà, ils sont déjà allés au feu. ils sont capables de s'adresser à un auditoire de non-spécialistes. Il y a une troisième contrainte dans les choix. Nous avons un certain nombre d'universitaires montpelliérains. Et donc, chaque saison, depuis l'origine, nous tenons vraiment à réserver un certain nombre de soirées aux universitaires de l'université montpelliéraine. Et enfin, la quatrième contrainte qui n'est pas systématique mais qu'on essaie tout de même de respecter, c'est effectivement d'inviter un certain nombre d'auteurs de livres, puisque nous avons aussi un partenariat avec la librairie Soramp. C'est que l'essai en tant qu'objet de plaisir et objet de connaissance est au cœur du dispositif.
Un dispositif qui connaît un succès constant. La salle Rabelais n'est pas extensible à l'infini, c'est plein pratiquement tout le temps.
Oui, alors on se félicite de voir des salles pleines sur des thèmes surprenants. Quand je pense l'une des conférences qui a porté sur le boson de Higgs, je ne suis pas sûr que dans la rue, si on faisait un radio-trottoir, on aurait beaucoup de réponses sur qu'est-ce que c'est que le boson de Higgs. On a fait plein, c'est-à-dire 700 personnes. C'est-à-dire la salle Rabelais est pleine et la salle en dessous, reliée par télévision, est pleine également. Alors certains même s'en sont pleins en disant il faut arriver à l'avance, sinon on n'a pas de place. Vous savez, je suis un peu comme Churchill qui disait quand on a reconstruit le Parlement britannique, il vaut mieux une salle un peu petite mais pleine qu'une salle trop grande et à moitié vide. Donc après tout, pourquoi pas ? D'autant que la jauge de remplissage est quand même inégale. On s'est rendu compte qu'il y avait plus d'auditeurs, en tout cas physiquement présents, je ne parle pas à la radio, on a plus de personnes qui viennent pour des sujets extrêmement pointus, des sciences exactes, que de personnes venant pour les sciences sociales. Mmh. Ça peut paraître curieux, mais finalement, une conférence sur l'histoire, sur l'esthétique, je ne dirais pas tout à fait l'archéologie, mais les sciences humaines, fait moins appel au public que les sciences exactes, la physique, la chimie, la biologie, etc. Donc, il y a une espèce de variation de la fréquentation qui est tout à fait normale. On ne cherche pas à tout prix à remplir à ras-bord, mais on peut se féliciter qu'en moyenne, on a entre 400 et 500 personnes à chaque conférence.
Mmh. Un public qui est aussi constitué de fidèles.
Alors, il y a des fidèles, Régis pourra en parler, parce qu'on a essayé de savoir un peu qui venait. Alors, on a l'impression qu'il y a, d'une part, un noyau dur de personnes, disons, d'un âge non pas très avancé, mais en tout cas la cinquantaine à peu près et au-delà, qui est un public de conférence, un public cultivé certainement, fait souvent d'anciens enseignants, de gens qui ont travaillé dans la culture, des choses de ce genre-là. Donc là, on a un noyau dur qui se perpétue, je dirais, de séance en séance. Et puis, on a une espèce de couronne, c'est comme Saturne, une couronne qui change suivant les conférences, notamment composée d'étudiants, et d'étudiants en général avancés, par exemple en biologie ou en astrophysique. On est sûr qu'on va avoir ce qu'on appelle les Master 2, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois le doctorat, dans la salle, et qui constitue un autre public qui, en général, ne s'assied pas aux mêmes places, est plutôt discret, mais pose quelques questions, alors là, extrêmement pointues. Et puis, on a la troisième couronne, personnes, j'allais dire, de gens inattendus qui sont venus là parce que le thème les a intéressés. Et je pense qu'on va faire l'expérience cette année qu'avec l'abécédaire, ça peut fournir peut-être un petit changement de public. En tout cas, au moins à la marge.
Un abécédaire qui un petit peu comme quand on lit la presse scientifique en ce moment, on se rend compte que finalement tous les champs scientifiques semblent de plus en plus être intriqués, intrication, une propriété quantique de la matière, etc. Et c'est vrai que tout ce qui s'est passé autour du champ de Higgs et du boson qui va avec et qui attire, enfin qui la physique quantique excite beaucoup l'imaginaire des gens parce que elle pose aussi des questions philosophiques. Et là, j'aurais tendance à dire c'est assez surprenant que les gens soient plus friands de sciences dures que de sciences molles, comme on les appelle, alors que finalement, on voit bien qu'elles se rejoignent aujourd'hui.
Bien sûr, mais il y a aussi cette impression que quand on écoute une conférence de sciences dites dures, on va sortir avec des réponses, au moins un état du savoir constitué au moment où il est prononcé, alors que lorsqu'on sort de conférences de philosophie, par exemple, on repart souvent avec beaucoup de questions.
Demain, c'est A comme arbre avec Francis Allais qu'on avait reçu il n'y a pas longtemps, qui lui est un local à Montpellier. Hein.
Oui.
Absolument. Donc, on avait reçu par rapport au film qui sort en novembre. Là,
oui, le 13 novembre, une semaine après son passage à l'Agora des Savoirs.
Et donc, ce sera B comme Big Bang ensuite, C comme Chaos, D comme Dinosaure. C'est les quatre conférences à venir. Il y a aussi F comme Femme de Science. Là aussi, il fallait... parce qu'il y avait, plusieurs conférences sur des hommes de science. Hein, je me souviens, sur Poincaré, par exemple. C'était pour renvoyer la balle.
Alors, oui, on a toujours un petit problème, si vous voulez. L'inégalité des genres dans l'université est quand même un poids que nous traînons depuis longtemps. Et malgré quelques efforts, il faut dire que le partage des genres est très... inégales en défaveur des femmes. Donc on essaie de trouver d'abord des conférencières, et nous en avons ici dans notre programme, et ensuite des sujets qui portent aussi sur les femmes. Sinon, c'est presque spontanément, culturellement, un sujet qui est complètement oublié. On fait comme si la question ne se posait pas. Donc on avait déjà pensé à travailler, puisqu'il y a eu des ouvrages produits sur les femmes scientifiques dès le 18e et puis le 19e siècle. Il ne faut pas oublier qu'encore aujourd'hui, il n'y a que deux femmes enterrées au Panthéon, et elles ne le sont que parce qu'elles sont les épouses d'un homme célèbre. Marie Curie est à cause de son mari, et Madame Berthelot également. Donc, il est question d'ailleurs de faire entrer prochainement peut-être une femme au Panthéon. Alors nous, on n'attend pas que la panthéonisation soit réalisée, et on a essayé d'avoir un certain nombre de femmes comme conférencières, et là, dans F comme femme de science, on aura une galerie de portraits, je pense, des femmes qui se sont illustrées dans les sciences et qui sont malheureusement souvent un peu oubliées ou sous-estimées.
Non seulement une galerie de portraits, mais aussi Anne-Sophie Godefroy qui va venir est maîtresse de conférence, puisqu'elle y tient, maîtresse de conférence en philosophie à Paris-Créteil, et elle va venir interroger les raisons même de l'invisibilité des femmes dans le champ scientifique et les dispositifs à la fois théoriques, pratiques et institutionnels qui sont actuellement inventés depuis quelques années pour y remédier.
Alors ça, c'est je ne sais pas si c'est un fait exprès, ce sera le 11 décembre, et puis la semaine suivante, ce sera Geneviève Fraisse qui fera G comme genre. Donc on est un petit peu dans... Il y a aussi une logique, puisque le 8 janvier, ce sera H comme Homo historicus. Donc c'est un fait exprès ou ça s'est trouvé comme ça?
Non, on aime bien faire de temps en temps des petits doublons et des séances qui se suivent pour approfondir un sujet.
La leçon inaugurale donc aura lieu demain avec Francis Allais qui va parler de l'arbre. L'arbre qui là aussi pose des questions. Alors on parlait de physique quantique tout à l'heure, on a appris dans le courant des 24 derniers mois que la photosynthèse, en fait, son secret, son rendement de 100% était dû à la propriété de la multiplication des chemins où les particules prennent tous les chemins à la fois. Lui souligne le fait que les arbres sont là depuis bien plus longtemps que nous, que le génome du grain de riz est immensément plus long que le nôtre, et qu'il y a beaucoup de vanité dans le comportement de l'espèce humaine avec la fleur.
Oui, il y a, vous savez, de façon générale, une revisitation, je crois, des poncifs qui nous habitent, où on pense qu'on a une vision quand même, j'allais dire, de la nature et de la création qui est assez proche des grandes liturgies théologiques. C'est-à-dire, l'homme est au centre, il est l'espèce certainement la plus complexe, il est donc forcément au sommet de cette création. Et donc, tout le reste, des rochers, des arbres et des animaux, n'est qu'une sorte d'environnement qui mettrait en valeur l'humain. On se rend compte aujourd'hui que les choses vues d'un point de vue scientifique sont assez différentes, que l'homme n'est qu'un élément dans un ensemble très complexe et que dans cet ensemble, il est quelquefois dépassé du point de vue des critères scientifiques par des objets comme les arbres qui nous paraissent d'une grande banalité.
Et on apprendra justement demain qu'il n'en est rien. Ensuite, ça partira sur le Big Bang avec Aurélien Barreau. Est-ce qu'il est de Montpellier, Aurélien Barreau ?
Non, il est grenoblois. Il vient de l'université Joseph Fourier de Grenoble et il est chercheur au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie du CNRS.
Big Bang qui risque d'attirer encore beaucoup de monde.
Alors on avait déjà eu des conférences un peu dans ce sens-là, dans la deuxième année déjà. Le Big Bang, c'est sûr que ça attire en général les foules. D'abord parce que c'est un terme qui est aujourd'hui rentré dans le langage courant. Ensuite parce qu'on croit savoir ce que c'est. Et pour beaucoup, le Big Bang est le début de notre monde créé. Alors que pour les chercheurs, c'est au contraire la fin d'une période. Mmh. Donc il y a une erreur complète sur le sens qu'on vient d'accorder à Big Bang. Et je pense que là, il va y avoir à nouveau des questions qui sont souvent des questions moins de physique, ce qui se comprend, ou de cosmologie, que des questions presque philosophiques. Comment est né notre monde? D'où venons-nous? Sommes-nous des parcelles d'étoiles? Quelle est la différence entre la matière et l'esprit, etc.
D'autant que les dernières images du satellite Planck, remettent en question certaines choses, notamment par rapport aux dissymétries qu'on peut observer dans la température de cette instantanée pris très très peu de temps après la singularité, on va dire ça comme ça. Donc effectivement, oui, on croit savoir ce que c'est. En fait, ça reste, pour aujourd'hui encore, c'est un champ théorique.
Oui, je crois que le terme qui est passé dans le langage courant, qui est presque métaphorique, cache qu'il est plus une hypothèse de recherche pour les chercheurs et qui ne délivre pas encore tous les secrets du monde. Il n'est pas un de ces secrets qui serait caché dans une cave du Vatican et qu'on garderait jalousement. C'est surtout pas ça.
Ensuite, ce sera, et puis on va peut-être terminer là-dessus, parce qu'on retrouve évidemment tous les rendez-vous sur le site montpellier.fr sur la rubrique de l'Agora des Savoirs. Ensuite, ce sera Gilles Kepel qui viendra parler de C comme chaos. Il ne s'agit pas de la théorie du chaos ni de physique quantique, mais d'une chronique sur les révolutions arabes. Gilles Kepel qui est politologue.
Alors, Gilles Kepel est déjà venu à Montpellier, notamment pour les entretiens de Pétrarque l'été dernier. Et le chaos est un peu symbolique du dernier livre qu'il vient d'écrire et qui est au fond une relation de sa propre expérience pendant 20 ans de l'étude des pays arabes. Et ce qui en ressort, évidemment, malheureusement, aujourd'hui, c'est plutôt l'idée d'un chaos, d'une désorganisation que d'une mise en ordre. Je ne doute pas que là, on va remplir la salle, parce que Gilles Kepel a un verbe facile à écouter, il a de l'humour, il a maintenant un peu la sagesse des chercheurs qui se retournent un petit peu sur 20 ans ou 30 ans de travail. Et je pense que ça vaut la peine de venir l'écouter. Je pense qu'il aura autant d'auditoires qu'il en a eu quand il est venu pour les entretiens de Pétrarque.
Alors justement, on disait qu'il y a souvent des gens qui se disent « Ah bah tiens, on a pas de place, on peut pas venir, etc. » Alors on rappelle que les conférences sont retransmises en direct par les bons soins de Bruno Bertrand le mercredi, donc en direct, et qu'à 14h le samedi, les auditeurs peuvent réécouter la conférence. Et puis il y a aussi la Maison des Sciences de l'Homme qui est toujours en partenariat avec l'Agora des Savoirs et qui met en ligne les vidéos pour ceux qui préfèrent
voir l'image.
Mais c'est vrai qu'il y a parfois des gens qui préfèrent n'écouter que le son sur les conférences.
Oui.
Ça permet de se focaliser.
Il y a effectivement les deux publics, ceux qui écoutent la radio et souhaitent écouter le son et ceux qui souhaitent le suivre en streaming et en direct aussi sur Internet.
On a cité la librairie Sorams aussi, la maison des sciences de l'homme. Il y a aussi les trois universités, Montpellier 1, 2 et 3, ainsi que le lycée Joffre qui sont de la partie. Donc c'est eux qui participent au conseil scientifique.
Alors les trois universités, oui, participent au conseil scientifique. Quant au lycée Joffre, ils participent d'abord à la diffusion du programme auprès de l'ensemble des lycéens et étudiants des classes préparatoires, et surtout dans le cadre du partenariat avec Direct Matin Montpellier Plus. Chaque mercredi matin, on trouve une interview du conférencier sur une pleine page, et cette interview est réalisée par un ou une étudiante différent chaque semaine. Et ces étudiants nous sont fournis évidemment par des membres du conseil scientifique qui nous les conseillent, donc des étudiants de l'université, mais aussi un certain nombre d'entre elles, parce que ce sont souvent des jeunes femmes, viennent des classes préparatoires du lycée Joffre.
Parfait. Michel Miaille, Régis Penalva, on vous remercie. On souhaite une excellente cinquième saison à l'Agora des Savoirs.
Merci, merci beaucoup.
À très bientôt sur les ondes de Divergence.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
I'd like to dedicate this to all the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat. No, I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely fell on me. So, it was a stormy night. You know the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, you, the night was long, the night went on. We were cooling out through the break of dawn. Incense was burning, so I'm feeling right. I picked my friends like I pick my fruit. Again, he told me that when I was only you. I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me, cause I can't please you. And that's why I do what I do. So flies free like a willow tree. Do we, do we, do we? And if you don't wanna be down with me, you don't wanna be from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, then you don't wanna be from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, then you don't wanna be from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, you just don't wanna be down. I have a heart. And I take it everywhere I go. Cause I'm planting seeds, so I reap what I sow. You know, on and on. My cyber keeps moving like a rolling stone. I can't control the soul flowing in me. Ooh, ooh. See, I picked my friends like a pick my fruit. Again, he told me that when I was only you. I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. Work it pleasing me, cause I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Do we, do we, do we? And if you don't wanna be down with me, you don't wanna pick from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, you don't wanna pick from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, you don't wanna pick from my apple tree. And if you don't wanna be down with me,
l'auberge espagnole sur les ondes de Divergence FM, le 93.9. Bien évidemment, si vous ne savez pas quoi faire mercredi, jeudi, vendredi, samedi, eh bien Mathieu et Mathieu ont pensé à vous.
Du 6 au 9 novembre, Mansa Live Production présente le Mansa Jam Festival au Jam. Mansa Live Production, c'est deux passionnés de musiques afro qui vous embarquent pour 4 soirs. Mercredi 6 novembre, Tao Ravao et Vincent Bucher Quartet. Tao Ravao est né en 1956 à Madagascar avec l'harmoniciste Vincent Bucher. Il crée une musique transgenre vers un horizon afro-blues trans-malgache. Jeudi 7 novembre, l'afro-rock instrumental et explosif du quartet Juju Rock, des londoniens allant du rock dur et psyché à l'afrobeat en passant par le dub, le jazz et autres black music. Vendredi 8, Koko Dembélé, l'un des pionniers du reggae au Mali depuis les années 70, qui a écumé pendant plus de 30 ans les scènes ouest-africaines, allemandes ou brésiliennes, au Jam, pour sa première tournée en France. Samedi 9, le Groove Killer Project. Multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur et directeur musical, Sheikh Tidiane Seck est surtout connu pour ses talents de claviériste. Il a accompagné Jimmy Cliff, Fela, Jose Winul, Carlos Santana, Hank Jones ou Assassin. Le projet à géométrie variable Groove Killer est né sous le signe d'un groove afro-jazz qui flirte avec la drum and bass et la jungle. Mansa Jam Festival, c'est au Jam, du 6 au 9 novembre. Plus de renseignements sur www.lejam.com.
Et voilà, vous l'entendez depuis quelques jours déjà tourner sur les ondes de Divergence, ce petit message de promotion pour ce festival qui, bah, c'est la première édition. Alors on est avec les deux Mathieu. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Gilles.
Et puis il y a aussi Koko Dembélé qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors on est ravis de vous avoir pour ce qui est un coup d'envoi d'une longue série d'événements autour de la musique afro. Peut-être avant de parler de l'avenir, on va parler du présent ou même peut-être un petit peu du passé. Comment tous les deux vous êtes tombés dans le chaudron de la musique afro?
Ben, on est tombé dans le chaudron de la musique afro il y a un petit moment. On s'occupe on est runner sur Fiesta 7. Et donc, ça veut dire qu'on s'occupe des artistes, des journalistes et tout ça. Et on a eu la chance de rencontrer Salif Keita et d'avoir un très bon feeling avec lui. Sur le quai de la gare de Sète, il nous a donné le numéro de téléphone de sa femme. Donc nous, on est partis 6 mois plus tard et c'est là-bas qu'on s'est plongé dans le chaudron en plein. Voilà, on était avec ses musiciens. Et c'est comme ça qu'on a rencontré une chanteuse malienne, un guitariste qu'on a fait venir. Et ensuite, Koko Dembélé qui est là.
Donc rien ne vous prédisposait à devenir organisateur de concerts, sinon la passion
Ouais, bon, la passion quand même, après, ça fait un moment que ça nous trottait. Moi, je suis un gros mangeur de disques, amateur de concerts, et bon, au bout d'un moment, on a envie de voir les artistes que très peu de gens connaissent, qui habitent très loin, et qui pourtant sont vraiment géniaux, et forcément, un jour ou l'autre, ça devait arriver, de toute façon, parce que, voilà...
Ça devait arriver, mais alors ça se prépare, il y a toujours un risque quand même important à faire venir
des
gens.
Ah ben il y a un très gros risque.
Donc comment vous vous êtes aguerri pour mener ce projet à terme?
On s'est aguerri, bon déjà, depuis qu'on bosse à Fiesta 7, on a vu un peu comment ça se passait. On travaille régulièrement avec le Jam aussi, donc on voit bien comment ça se passe. Et puis bon, nous on s'est aguerri pendant les premières tournées qu'on a fait avec les artistes maliens qu'on a fait venir, qu'on a fait rester en résidence pendant 5 mois à Montpellier, donc on était vraiment avec eux dans le jus, on voit comment ça se passe. Et voilà, après un jour, avec Adrien du Jam, on s'est dit, bah tiens, nous a dit, bon, ce que vous nous avez proposé déjà, c'était super, ça a marché, faisons quelque chose d'un peu plus conséquent. Sur un bout de papier, on a écrit, on s'est dit, bah tiens, on va faire un festival d'un mercredi au samedi, bon, maintenant il faut trouver les artistes, de préférence des artistes pas du tout connus. Voilà, parce que après, c'est un festival de découverte et qui s'adresse aussi aux mélomanes ou ceux qui veulent devenir mélomanes. C'est pas fermé, mais en même temps, on n'a pas voulu se trouver une grosse tête d'affiche pour faire joli. Enfin, on a une tête d'affiche, Sheikh Tidiane Seck, mais c'est vraiment les amateurs qui connaissent ça. Plein de gens l'ont entendu sans savoir qui est ce personnage.
Alors pour l'instant, l'autre Mathieu n'a rien dit. Comment vous répartissez les rôles et qui fait quoi?
On est assez complémentaires en fait. On travaille tous les deux. Mathieu, c'est vrai que lui étant musicien, il a une connaissance du feeling des artistes et une façon de travailler auprès d'eux qui lui est propre. Moi après, j'ai beaucoup vécu en Afrique et j'ai une grande sensibilité au niveau des artistes africains. Donc moi, on se partage le travail. Moi je m'occupe pas mal aussi de la communication autour du festival, autour de notre association. Mais on travaille de manière complètement complémentaire en fonction des compétences qu'on a tous les deux, quoi, qu'on a acquéries au cours de notre expérience.
Une expérience qui vous permet bien à partir de demain soir, donc mercredi 6 novembre à 21h15, de démarrer ces 4 jours de concert avec tout d'abord Tao Ravao et Vincent Buchère, l'histoire d'une rencontre musicale.
Oui, eux c'est pareil, ils se sont rencontrés. Tao jouait dans le métro depuis un petit moment à Paris, c'était dans les années 80, et Vincent aussi. Et donc ils ont beaucoup joué ensemble, ils sont partis tous les deux, ils ont beaucoup tourné avec des bluesmen américains, ils sont partis là-bas, ils sont revenus, ils ont joué dans plein de projets différents. Vincent Buchère s'est notamment fait remarquer en jouant avec Boubacar Traoré et Lobby Traoré. Dernièrement, là, il s'est aussi fait remarquer en jouant dans, il est français, hein, en jouant dans l'Héritage Blues Orchestra, qui est un des plus gros orchestres de blues américains. Ils avaient besoin d'un des meilleurs harmonicistes au monde, et c'est Vincent Buchère qui a été choisi... sans trop de problèmes. Et Tao Ravao, lui, c'est un multi-instrumentiste. Il joue tellement d'instruments, instruments à cordes. Il touche plein de musiques différentes. Hein. Bon, il y a la musique malgache, le blues. Ils ont intégré un peu des rythmiques un peu plus afrobeat, boogie. Voilà,
il était d'abord mandoliniste, puis banjoiste. C'est ce qui est assez amusant.
C'est ça. Et maintenant, il joue du krar. C'est une sorte de luth éthiopien. Il joue la kabos, qui est le luth malgache. Il joue la vaina, qui est une sorte de harpe malgache qui ressemble un peu à la kora, la harpe mandingue. Et voilà. Et du coup, c'est un univers musical assez particulier.
Alors c'est au jam ce mercredi avec en première partie Leila Makkala, qui nous vient d'où?
Et alors, elle, origine d'Haïti, elle a grandi à New York, mais elle vit à la Nouvelle-Orléans depuis un petit moment, et elle s'est faite connaître ces derniers temps en tournant avec les Carolina Chocolate Drops, cette revue qui reprend un peu le jazz à l'ancienne, qui fait un carton depuis des années. Et elle a été violoncelliste et banjoiste sur les deux dernières tournées.
Alors jeudi, ce sera un rendez-vous à mon avis fort attendu par tous ceux qui aiment un peu le côté funk rock de groupes disparus, qui ne sont plus actifs aujourd'hui. Là, ce seront les Londoniens de Juju Rock, donc de l'afro rock, qui est un genre qui n'est pas super pratiqué.
Non, c'est très peu pratiqué, et pourtant on a en France quelques groupes comme ça, hein. Moi je pense notamment à un groupe qui est mené par deux protagonistes montpelliérains, s'appelle The Afro Rockers. Bon là, c'est pas instrumental, mais voilà, c'est un genre musical qui est un peu banni, laissé dans l'underground, on ne sait pas trop pourquoi, parce que c'est de la musique comme le reste de la musique. Et je pense que les gens qui vont venir jeudi soir, qui ne connaissent pas et par curiosité, je pense qu'il y en a pas mal qui vont prendre une claque en écoutant ce groupe, parce que voilà, ça joue fort peut-être, mais c'est très musical. Et voilà, puis nous, c'est ce qu'on voulait, hein, un peu amener un peu plein de couleurs différentes dans notre programmation.
Et puis comme toujours, c'est l'histoire de rencontre, hein, parce que Juju Rock, c'est Christian, le guitariste qui est le meneur du projet, qui est d'ailleurs toujours le guitariste du Space Band avec Anthony Joseph. Et on a eu l'occasion avec Cosmic Groove de travailler sur ces concerts-là, avec Fiesta aussi. Et du coup, on a beaucoup sympathisé avec ce guitariste Christian, et il nous a proposé son projet complètement nouveau l'année dernière. Et on a dit banco, quoi. On a décidé de leur faire leur première scène en France, parce qu'on trouve que c'est une démarche musicale et artistique extraordinaire, et voilà.
Juju Rock à ne pas rater absolument, ce sera jeudi soir sur la scène du Jam. Et puis vendredi, il est avec nous, c'est Coco Dembélé, pour donc une première tournée en France. Comment ça se fait que tu n'aies jamais tourné en France auparavant?
Bon, effectivement, auparavant, dans ma carrière solo, justement, je n'ai pas encore tourné en France la première fois, mais sinon j'ai tourné en France avec l'Orchestre Kanaga.
Ah oui.
De Mopti. Mm-hmm. J'ai fait le Zénith. J'ai fait l'Angoulême. Mm-hmm. Cela, j'ai fait.
D'accord.
Mais c'est ma toute première fois maintenant en carrière solo.
Ouais.
Vraiment, je suis en forme pour ça, quoi. Mm-hmm. Il faut que j'arrive à convaincre ce public-là, quoi. Et je suis prêt.
Bon, on n'en doute pas une seconde. Alors tu as commencé avec les percussions, je crois, vers l'âge de 7 ans. Et puis tu as beaucoup voyagé dans le Mali pour t'imprégner des cultures traditionnelles. Qu'est-ce qui t'a amené au reggae?
Ouais, mais justement, ce qui m'a amené au reggae, le reggae d'abord est une musique qui provient du ghetto. des gens à la situation sociale qui sont souvent privés de leurs droits élémentaires. Et j'en faisais partie aussi. Oui, non. Et quand j'ai écouté le Bob Marley comme le Jimmy Cliff, finalement, je me suis engagé, quoi. Et j'ai fait mon reggae, Rous Dogon, purement africain du Mali. Et ça n'a rien à voir avec le reggae de l'Occident, ni de la Jamaïque. Voilà, effectivement.
Merci. Alors, le Mali auquel on pense beaucoup, puisqu'on est jumelé avec Radio Tabalé à Bamako, et que le Mali, en ce moment, va pas très bien, faut bien le reconnaître. Tu as eu la gentillesse de venir avec ton instrument. Alors, tu vas nous jouer un petit morceau, on te laisse nous le présenter.
Merci. Merci. Kabaye nyolo nyolo nyemuke nyemuke Nani ndeye o Nani ndeye mbomflesa Netemba Nebila ukasa uyinene kibugo simifaranga Nebila ukasa bungesa netemba Nebila ukasa bungesa netemba Demba Demba Dentita upako Ala noto mukera Nebina mukesa Wasini ye masa Bolo o masa Demba
Coco Dembélé, merci beaucoup en direct sur les ondes de Divergence pour illustrer ce concert du vendredi 8 novembre où il sera sur la scène du Jam dans le cadre de ce premier Mansa Jam Festival. Un festival qui se poursuivra samedi 9 avec le Groove Killer Project. Peut-être avant de détailler ce dernier concert, revenir avec Coco Dembélé sur la musique. Alors, est-ce que tu seras seul sur scène pour ce concert?
Ouais, pour ce concert, je serai seul en solo justement, mais je suis entouré de mes musiciens. Je suis entouré de 6 musiciens.
D'accord, musiciens qui t'accompagnent
qui
d'habitude ou qui sont venus pour ce concert?
Bon, il y en a qui sont venus pour ce concert, on a répété il y a longtemps, il y en a qui sont venus avec moi du Mali, ils sont là.
D'accord, ouais. Donc c'est quoi le line-up au niveau des instruments?
Il y a son bassiste Issa Ouattara, donc qui est arrivé du Mali. Le batteur Souleymane Dembélé, qui l'accompagnait au Mali également et qui vit à Paris depuis un moment, donc qui est descendu pour le concert. Et après, c'est le reste de l'équipe est composé de musiciens montpelliérains, puisque notre association aussi fait en sorte de créer un échange entre les musiciens d'ailleurs et d'ici. Donc il y aura notamment Emma Lamadji et Marie-Nicole Nati au chœur, donc que beaucoup de gens connaissent, et Daniel Moreau au clavier et Bastos à la guitare.
Oui, donc un joli line-up.
Oh oui.
Donc ça promet des moments forts sur la scène du Jam. Ça c'est donc vendredi 8 novembre et puis samedi 9 ce sera le dernier soir avec le Groove Killer Project de Sheikh Tidiane Seck. Tu disais pas de tête d'affiche, mais c'est un petit peu votre tête d'affiche.
Bien sûr, c'est un peu notre tête d'affiche, mais c'est vrai que quand on a présenté un peu ce festival à nos amis ou aux gens qu'on connaît, la plupart des gens ne connaissaient aucun des artistes qui étaient passés. Alors bon, quand je leur disais qui était Cheikh Tidiane Seck, il y en a qui me disaient qu'effectivement, ils voyaient un peu qui c'était. Mais oui, c'est pour les amateurs de jazz un peu métissé ou de groove. Mais c'est vrai que voilà, le nom de Cheikh Tidiane Seck, lui, il joue beaucoup pour les autres. Il a fait seulement, sous son nom, seulement 3 albums solo. Ça fait un peu plus de 30 ans qu'il joue aussi. Et ces 3 albums, il les a enregistrés sur les 10 dernières années. Donc voilà, ça lui a... Bon, son dernier disque a eu une bonne campagne promotionnelle et a eu de très bons retours de la critique. Donc bon, ça a aidé encore le public à se rappeler de lui. Mais c'est pas un artiste solo comme on entend souvent. Alors que si, en fait.
C'est un artiste qu'on a voulu faire aussi parce qu'il est, il a la même vision, si vous voulez, de la musique et du travail que nous. C'est un monsieur qui a l'habitude d'aller dans tous les projets, de soutenir tous les projets émergents. C'est pas quelqu'un qui a la grosse tête. Il est prêt à venir, à se déplacer partout pour soutenir les projets quand il pense que ça vaut le coup. Et c'est ce qu'il a fait en venant à Montpellier quand on l'a sollicité pour le projet de Yacoub Afouni qu'on a fait cette année. Voilà, il est venu en résidence à Montpellier avec nous, nous a beaucoup soutenus. Et la vision qu'il a de la musique et du travail avec les artistes nous a beaucoup touchés. Et on a eu envie de le mettre à l'honneur de ce festival comme parrain du festival pour ces raisons-là aussi.
Est-ce que la scène afro, c'est une scène qui est facile à développer en France ou...
Pas vraiment, non. C'est parce que c'est quand même assez cloisonné. Il y a pas mal de festivals quand même. Hein. La France est quand même bien fournie en festivals de musique dite du monde. Même si le punk est une musique du monde, comme n'importe quelle autre musique. Mais c'est sûr que si on prend, nous on cherche pas vraiment des artistes qui sont à la mode, qui sont beaux. Vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment. C'est sur l'intention musicale et artistique qu'on fait nos choix. Et après, c'est sûr que la plupart des festivals sont étonnés quand on leur envoie... Enfin, on a assez rarement des réponses de retour quand on envoie des propositions de groupes. Après, quand on... Disons que nous, notre difficulté principale, bon, on l'a bien choisi, hein, c'est qu'on fait venir des artistes d'ailleurs qui ne sont pas du tout connus ici, qui n'ont en général, à part Coco, mais qui n'ont pas trop enregistré de disques avant... qui n'ont pas vraiment de vidéos, qui n'ont rien. Et donc déjà, avec ça, c'est très dur de convaincre les festivals. Et puis, bon, mais ils aiment tous, enfin pas tous, mais il y en a beaucoup qui aiment se refiler les mêmes groupes qu'on voit tourner pendant des années. C'est un peu tout le temps la même chose, en fait. Et on a l'impression que la scène musicale africaine, ouais, je ne vais pas citer de nom, mais ça en tient à 2 ou 3 chanteuses et 4 ou 5 musiciens, ce qui est totalement idiot. Et puis moi, je pense que c'est aussi comme ça qu'on éloigne les gens... de la culture, c'est-à-dire que on va les chercher, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi à eux de venir, des fois. Voilà, c'est comme l'apprentissage, hein, l'enseignement. On reçoit un enseignement quand on est enfant, et puis après, on en fait ce qu'on en fait. Donc, on peut avoir très, très bien instruit et ne rien en faire, ou ne pas avoir été du tout instruit, et faire, aller chercher par soi-même. Et nous, c'est ça aussi qu'on veut, hein, c'est arrêter de donner à manger comme ça. C'est les gens, ils viennent et ils choisissent ce qui leur plaît.
Très bien, on vous remercie d'être venu dans nos studios. On rappelle que ça se passe au Jam à partir de ce mercredi jusqu'à samedi. Donc vous n'aurez aucune excuse, il y a bien un soir où vous n'aurez ni piscine, ni la jambe cassée. Et
je tiens juste à préciser qu'on a essayé de faire une politique tarifaire assez basse pour encourager le plus de Montpelliérains à venir, puisque la première soirée avec 2 groupes est à 13 euros. Le jeudi, c'est gratuit. Donc voilà. Ouais. Et le lendemain, c'est 13 euros aussi. Et 18 euros pour la tête d'affiche. Et après, c'est gratuit pour tous les jeunes jusqu'à 15 ans. Voilà.
Voilà, amis jeunes, si tu nous entends, eh bien, prends tes baskets et va au Jam. Exactement. À partir de demain soir. Coco, merci de nous avoir interprété ce titre.
Merci.
On te souhaite un excellent concert dans le cadre de ce festival. Ce sera vendredi pour ce qui te concerne. Et puis, on se quitte avec un tout petit peu de musique avant de passer à la suite. Merci, à très bientôt sur les ondes de Divergence. Les amateurs de high-tech et de spectacles interactifs et de choses super bizarres iront peut-être au théâtre Jean Villard ce 7 et 8 novembre pour voir le spectacle Un point c'est tout, entretien avec Claire Barden. Nous sommes au téléphone avec Claire Barden, bonjour.
Bonjour.
Alors on vous reçoit puisque vous allez intervenir, on va le dire pour l'instant comme ça, vous allez intervenir au théâtre Jean Villard à Montpellier pour ce qui n'est pas ni un spectacle ni une conférence, ça s'appelle Un point c'est tout, ni un spectacle ni une conférence, c'est quoi exactement ?
Ça va être un peu les deux à la fois, et en effet ni l'un ni l'autre, ça sera peut-être, on va dire, un manifeste, pour être un petit peu audacieux. Le manifeste, en fait, de la façon dont on travaille avec Adrien Mondeau. Donc, qu'est-ce qui constitue un peu nos matières premières de recherche ? Donc, elles sont numériques avant tout, hein, ce sont des dispositifs technologiques, mais aussi des sources d'inspiration, un imaginaire, un monde graphique. Et on a eu envie, en fait, de créer ce moment où on délivre un petit peu le dessous des cartes de comment on fabrique nos spectacles et nos expositions. Donc voilà, il y a des moments spectaculaires et des passages de conférences où on explique tout ça.
Alors avec Adrien Mondeau, vous constituez la compagnie Adrien M. Claire B. Vous travaillez donc dans le champ des arts numériques et des arts vivants, ça depuis 2004. Et vous créez des formes allant du spectacle aux expositions, associant le réel et le virtuel. Tout ça à travers un outil, si j'ai bien compris, que vous avez vous-même développé.
Alors absolument. Adrien est donc informaticien au départ, ainsi que jongleur. Et un jour, environ dans les années justement 2004-2005, il a eu envie de créer un logiciel qui permette finalement de jongler avec des images, de jongler avec de la matière numérique. Et depuis ce jour, il développe un logiciel qui s'appelle eMotion, pour Electronic Motion, et qui permet de créer des interactions entre des images et des informations issues du monde réel. Nous travaillons avec ce logiciel pour chacun des projets, et c'est un logiciel qui évolue évidemment pour chacun des projets.
Ce qu'il y a de particulièrement impressionnant dans ce qui est à la fois une conférence et un spectacle, c'est justement cette interaction entre ce qui est projeté, des éléments lumineux, dont on n'arrive pas à discerner comment ils sont justement projetés dans l'espace.
Alors on joue un peu sur cette illusion d'optique justement. On aime bien se dire qu'on crée des sensations, on crée une expérience visuelle, et qu'en même temps on peut en dévoiler les dessous. Et que c'est pas parce qu'on explique comment ces illusions d'optique existent que le public n'est pas emporté, n'est pas embarqué. Voilà, on travaille avec des vidéoprojecteurs, hein, très simplement, on ne le cache pas, on n'est pas des magiciens. Des vidéoprojecteurs, on travaille sur un tulle où on permet comme ça la superposition finalement d'une image avec des corps et de donner les sensations finalement que les deux rentrent en conjonction et qu'ils habitent un monde unique. En fait, on cherche à créer des extensions de la réalité avec des images vidéo en mouvement et en créant comme ça un dialogue qui est très organique, qui est très vivant. Puisque aucune des vidéos qu'on projette n'est enregistrée, tout est animé en direct sur scène en même temps que le spectacle.
Ça transparaît dans l'intitulé, ni un spectacle ni une conférence, cette volonté justement de dévoiler la magie qu'il y a derrière l'effet, sans craindre que ça fasse disparaître justement cette magie, ce qui atteste quand même d'une réelle volonté d'ouverture, de partage des connaissances et de pédagogie finalement dans votre travail.
Alors certainement, c'est clair qu'on a eu envie vraiment de raconter comment les choses se font, de transmettre... Ouais, un petit peu notre boîte à outils, et de faire le pari, je le disais à l'instant, que c'est pas parce qu'on comprend comment ça marche qu'on n'est pas emporté. Adrien, donc lui, vient des sciences, moi j'ai plus un parcours en art appliqué. On a tous les deux un vrai attachement à l'esprit de l'atelier, à l'esprit du laboratoire, à l'esprit de la recherche. Et c'est vrai qu'on a envie que les informations circulent, que les idées aussi, et qu'on puisse raconter chacun comment on construit... comment on construit les projets. En tout cas, nous, c'est l'état d'esprit dans lequel on travaille.
Ces manipulations, ce jonglage, ces éléments virtuels sont accompagnés d'une création sonore et musicale d'un groupe qu'on connaît un petit peu à Montpellier, qu'on a déjà vu, qui s'appelle Rien, groupe de post-rock atmosphérique, qu'on peut dire comme ça. Comment s'est fait le lien entre vous et Rien ?
Alors déjà, parce que je pense qu'on vient tous de la même ville au départ, et on a eu envie comme ça de créer... disons une atmosphère en effet où une poésie graphique assez minimaliste rencontre une musique qui pour nous, on adore, qui est la musique de rien, et qui charge en fait d'émotions, des signes qui paraissent extrêmement simples. Je vais donner un exemple très précis. Là, par exemple, on va avoir une myriade de points qui vont bouger d'une certaine façon. À un moment donné, ils vont bouger, par exemple, comme des flocons de neige. Et ben, on va charger d'imaginaire grâce au mouvement et aussi grâce à la musique. Et on va tout d'un coup voir apparaître une tempête. On va voir les mêmes points qui vont bouger d'une autre façon à un autre moment, par exemple qui vont tomber comme des pierres. Et ben la musique, tout comme le mouvement, alors qu'on a en face de nous des petits points tout blancs, tout simples, et ben la musique comme le mouvement vont charger d'imaginaire et raconter une histoire. Donc notre ambition en fait, Adrien et moi, c'est de faire cette démonstration. On a un univers minimaliste, graphique, mais il peut être onirique et il peut créer des sensations et il peut créer des émotions par le mouvement et par la relation avec le corps et dont la musique permet de une respiration commune.
Alors la compagnie Adrien M. Claire B, c'est vous deux. Nonobstant, sur ce spectacle, vous avez aussi eh bien, Loïc Drou-Glazet qui s'occupe de dispositifs informatiques, régie son et lumière. Antoine Coste qui est un assistant sur les côtés modèle physique. Charlotte Farcé et Valérie Pech qui sont le regard extérieur. La régie générale est assurée par Laurent Lechenot. L'interprétation, bah, c'est vous deux. Et puis quand on va sur votre site, on voit que bah, tout cette compagnie, c'est quand même un staff assez important. On peut s'en rendre compte sur www.am-cb.net.
Alors c'est vrai que Adrien et moi, on mène la direction artistique hein, de cette compagnie, mais c'est vraiment une taille d'équipe. Tous les projets qu'on réalise, on est en effet très nombreux et on essaye en effet, au contraire même, je dirais, de créer des projets les plus ambitieux possibles aussi pour faire apparaître des situations où chacun peut apporter son savoir-faire, son expertise, ses compétences. Moi, je suis plutôt plasticienne. J'ai envie de pouvoir travailler en écrivant avec le corps aussi. Et c'est clair que la rencontre avec des danseurs et avec des danseuses est fondamentale et bouleversante pour ça. Et donc, le travail de compagnie, il est aussi très intéressant de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on est nombreux et ça crée une vraie richesse aux différents projets. Après, ce qui est pour nous important, c'est de se resituer, quoi qu'il arrive, dans le cadre du spectacle vivant et des arts du mouvement et de travailler, même si on travaille avec un outil numérique, avec le vivant et avec le mouvement, et d'essayer de transposer à tous nos outils numériques ce qui fait la spécificité finalement d'un corps vivant sur un plateau. Sa fragilité, son énergie, le fait que les choses adviennent comme ça une seule fois et jamais deux fois de la même façon. Et en effet, on essaie de s'entourer de tout un tas de personnes, tant en régie technique que en danse, qui nous permettent de faire advenir ce projet de mixité technico-vivante.
Alors un projet qu'on pourra voir ici à Montpellier ce 7 novembre deux fois, une fois à 14h30, une fois à 20h. Et puis le 8 novembre, ce sera à 20h, un spectacle-conférence qui dure 55 minutes et qu'on ne peut qu'encourager les Montpelliérains à y faire un saut, à aller voir aussi sur le site du Théâtre Jean Villard ou sur le site de la compagnie des images de tout ça, des images qui font envie. J'imagine que est-ce que c'est dans le cadre d'une tournée plus vaste que vous intervenez au Théâtre Jean Villard à Montpellier?
Ah oui, on a une tournée de plusieurs projets hein, en ce moment, à la fois des installations interactives qui sont présentées au Planétarium de Vaux-en-Velin, la création d'un spectacle performatif pour une danseuse, et puis cette conférence spectacle qui accompagne les projets, voilà, comme un peu un dessous des cartes, d'autant plus qu'on propose toujours à la fin du spectacle, de la conférence spectacle, un moment d'échange en fait avec le public pour compléter un peu la discussion par des questions ou des remarques. On aime bien comme ça créer ce lien-là avec le public.
Alors ma dernière question sera une question un petit peu technique. Ici à Divergence FM, on a décidé en 2003-2004 de s'informatiser par et pour les logiciels libres. Alors est-ce que le logiciel eMotion que vous avez développé est disponible sur toutes les plateformes? Est-ce qu'il est accessible à tous ou est-ce qu'il est à vous?
Alors déjà, on peut tout à fait le télécharger sur le site de la compagnie. Donc, on le redit, am-cb.net. Donc, on invite vraiment toutes les personnes qui auraient envie de l'utiliser à venir télécharger et à tester. Il est utilisable pour l'instant et jusqu'à nouvel ordre uniquement sur Mac, donc sur les dispositifs Apple. Et on essaye de créer une communauté d'utilisateurs pour échanger sur les différents les différentes façons d'utiliser le logiciel afin qu'il y ait de plus en plus d'informations qui circulent et que de plus en plus de personnes puissent s'en emparer. Mmh. Un peu de temps, et on est déjà un peu débordé, on a du mal à organiser cette communauté, mais en tout cas, ça fait partie de nos envies et de nos ambitions à court ou à moyen terme, de créer une communauté des utilisateurs de eMotion.
Est-ce que ça veut dire qu'à terme, le logiciel lui-même pourrait devenir libre ? C'est-à-dire que les sources pourraient être accessibles ?
Pour l'instant, on n'en est pas là, mais en tout cas, on est preneur, disons, de tout un tas de retours sur l'utilisation pour l'améliorer et pour faire en sorte qu'il y ait maximum de tutoriels, de notices, de modes d'emploi, de cas d'exemple qui permettent que ce logiciel vive finalement et que d'autres projets puissent le faire exister.
Claire Barden, on vous remercie pour ces quelques minutes que vous nous avez accordées.
C'est moi qui vous remercie.
Au téléphone, ça s'appelle Un point c'est tout. C'est à voir au théâtre Jean Villers à Montpellier ce 7 novembre à 14h30 et 20h. Le lendemain, 8 novembre à 20h. Ça dure 55 minutes et on souhaite que le public soit au rendez-vous. Merci beaucoup.
À très bientôt.
Au revoir. C'est ainsi que se referme cette auberge espagnole avec la musique très énervée de Rien qui n'aura rien à voir avec la création qu'ils ont fait sur ce spectacle. Cette auberge espagnole a été proposée et réalisée par Gilles Gouget qui vous souhaite une très belle après-midi à l'écoute des programmes de Divergence.